l'impression qu'il domine véritablement ma pensée depuis longtemps et de plus en plus, c'est que quand je suis né, il y avait 1,5 milliard d'habitants sur la Terre. Quand je suis entré dans la vie active, disons quand j'allais chez les Boro, les Nambukwara, il y en avait 2 milliards. Et maintenant, il y a 6 milliards et il y en aura 8 ou 9 dans quelques années. Eh bien, à mes yeux, c'est ça le problème fondamental de l'avenir de l'humanité. Mais je ne peux pas avoir beaucoup d'espoir pour un monde trop plein.
Claude Lévi-Strauss a 100 ans. Émission spéciale sur RFI. Pascal Paradou, Benoît Ruel.
Toujours en direct du musée du Quai Branly avec les anthropologues Philippe Descola et Marcel Hénaff, le philosophe Patrice Maniglier, réunis pour le centenaire de Lévi-Strauss, un anniversaire qui s'apparente à un événement national. Partout, il est loué, célébré à l'Académie française, au Collège de France et ici dans le musée des civilisations, avec notamment cette journée spéciale où une centaine de personnalités lisent les principaux textes de l'anthropologue. Formidable, mais est-ce qu'on lit encore Lévi-Strauss quand on est un jeune chercheur? Marcel Hénaff, est-ce que vous l'enseignez, vous qui enseignez en Californie à vos étudiants?
Oui, ça m'arrive, mais...
Lévi-Strauss, c'est pas un oui absolument enthousiaste.
Exactement, ça tient au fait que Lévi-Strauss, aux États-Unis, n'a pas eu le même destin qu'il a eu en France. Il a été relativement barré, censuré. C'est toute une histoire des courants anthropologiques depuis le début du XXe siècle qui sont répercutés dans cette résistance à Lévi-Strauss. Je crois que Philippe Descola connaît mieux le problème que moi de ce point de vue. En tout cas, j'ai eu l'occasion de parler avec de jeunes chercheurs du département d'anthropologie, ce n'est pas là que j'enseigne, mais qui découvrent par eux-mêmes un auteur qui ne leur a pas été enseigné et qui sont éblouis. Et la manière dont ils en font usage, pour moi, est rassurante. Ça veut dire que, d'abord, ils y trouvent de l'intelligence. Ils y trouvent ensuite de la précision, ils y trouvent de la méthode, et ils y trouvent des perspectives nouvelles d'aborder les questions d'altérité des autres cultures et de leur diversité. Et ça, je crois que c'est encourageant.
Donc, c'est pas seulement un monument national, c'est un monument international avec quelques réserves, Lévi-Strauss, et on peut éventuellement s'en éblouir et polémiquer avec lui ou à travers ses œuvres.
Ah oui, c'est sûr que aux États-Unis, ce n'est pas un monument national ni international, mais c'est un problème d'abord. Et il y a eu le problème de l'entrée de Lévi-Strauss aux États-Unis à travers les littéraires. Et ça, c'était pas la meilleure entrée pour lui auprès de la profession anthropologique.
Pourtant, on dit qu'il écrit formidablement bien, et c'est assez vrai.
Mais le fait de bien écrire n'est pas le premier souci, toujours, des littéraires ou des départements de littérature, par exemple. Ils font de la théorie, et Lévi-Strauss n'entrait pas bien dans ces projets-là, sauf à l'époque de Susan Sontag. Lévi-Strauss comme héros, ça a été le titre d'un recueil qu'elle a organisé. Mais précisément, le fait que Lévi-Strauss soit entré aux États-Unis à travers le structuralisme ou le post-structuralisme, a été un handicap. Il y a eu peu de gens, des chercheurs, des grands anthropologues comme Marshall Salins, justement, qui ont proposé une approche de Lévi-Strauss qui passait aussi par quelque chose qui était orienté en partie par le marxisme. Mais sinon, il a été relativement ignoré.
Et en France, Philippe Descola, est-ce qu'on lit encore Lévi-Strauss quand on est un jeune chercheur?
Oh oui, bien sûr. Oui. Je peux revenir un peu d'ailleurs sur les différences entre la France et les États-Unis, ou la France d'un côté, les États-Unis et le Royaume-Uni de l'autre. Le paradoxe d'abord, que Lévi-Strauss est devenu définitivement et véritablement anthropologue après avoir découvert l'ethnographie sur le terrain au Brésil, aux États-Unis précisément, et au contact d'abord de cette grande figure qui était Franz Boas, le fondateur directeur de l'anthropologie américaine et puis en la fréquentation quotidienne.
Oui, il part dans les années 40 aux États-Unis parce que les lois de Vichy l'empêchent d'enseigner en France.
Et il y passe la guerre. C'est là qu'il découvre non seulement la linguistique structurale, mais aussi toute la richesse et la qualité de l'anthropologie américaine. Et il ramène ce patrimoine, ce bagage en France, et il en fait quelque chose d'un peu différent, parce que son projet n'est pas, comme ça l'était aux États-Unis, comprendre des cultures comme des totalités, avec leurs différentes caractéristiques sociales, leur ancrage dans un milieu, leur idéologie, etc. Mais au contraire, de proposer une anthropologie qui ne soit pas un système d'induction par rapport à des ethnographies particulières. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à saisir dans le monde américain, où les généralisations se font en général, à partir de l'ethnographie. Et où les grandes, même avant, disons, la vague postmoderne, où les grandes théorisations étaient regardées avec une certaine méfiance. Et les dernières, véritablement, qui a eu un certain effet aux États-Unis, c'était les théorisations néo-évolutionnistes, disons. Et donc, on le regarde comme un objet bizarre. Et je voudrais aussi souligner une chose très brièvement. C'est probablement la pensée la plus complexe dans les sciences sociales du XXe siècle. Donc, elle n'est pas d'un accès facile.
Benoît Ruel.
Philippe Descola, l'anthropologie française aujourd'hui est en partie divisée entre la filiation Lévi-Strauss et une filiation Balandier, à quoi on pourrait ajouter peut-être une filiation issue d'André Leroy-Gourhan. Le terrain est sans doute en cause. Les africanistes ont travaillé au moment de la décolonisation. Ils ont été happés par l'histoire en train de se faire, si je puis dire. Les américanistes, dans les années 1960-1970, ont été plutôt confrontés à des génocides. Mais est-ce que le terrain explique tout ?
Non, le terrain n'explique pas tout, mais il explique beaucoup néanmoins. Dans l'extrait que nous venons d'écouter de Claude Lévi-Strauss, cette inquiétude qu'il manifeste vis-à-vis de l'expansion démographique, je pense que j'entends derrière des références de Chateaubriand. Et lorsque Chateaubriand parle à propos des Natchez et en général des Indiens des Amériques, des peuples de la solitude, il y a quelque chose de cela en effet. Les Amérindiens que Lévi-Strauss a fréquentés au Brésil, ceux que j'ai fréquentés en Amazonie équatorienne, ce sont des tout petits groupes de population pendant longtemps demeurés dans des espaces immenses pour une raison bien simple, simplement, c'est que la plupart de leurs congénères avaient disparu, soit du fait des massacres, soit du fait des épidémies. Et qui vivaient en quelque sorte dans des micro-sociétés, dans des univers qui pouvaient donner l'idée qu'on se trouvait au matin du monde. Et ça ne peut que donner une coloration à l'idée que n'importe quel anthropologue se fait, et tout particulièrement Lévi-Strauss, de ce qu'est la nature de la vie sociale. Et on pourrait développer le fait que il y a dans l'œuvre de Lévi-Strauss, en quelque sorte, deux idées de société. L'une qui est, Patrice Manini l'a rappelé tout à l'heure, fondée sur l'échange, et c'est les bororos, c'est-à-dire une micro-société totale, avec très peu de gens, divisée en deux moitiés. Et dans chacune des moitiés, c'est-à-dire les hommes et les femmes d'une moitié, dépendent pour toute leur vie sociale, des hommes et des femmes de l'autre moitié, qui font les rites d'initiation, qui les enterrent, avec lesquels ils se marient, etc., etc. Et l'autre vue de la vie sociale, c'est les Nambikwara, toute petite population qui semble flotter à la surface du monde. Et ça, je pense que comparé aux institutions massives, aux grandes villes en voie de formation, que quelqu'un comme Balandier a pu observer et décrire et analyser en Afrique, on est dans des ordres pas simplement quantitatifs, mais même qualitatifs relativement différents. Et de ce point de vue-là, donc, le terrain, oui, joue un rôle.
Marcel Hénaff, si vous pouvez répondre rapidement à cette question, est-ce que Lévi-Strauss est aussi universel qu'on veut bien le dire ? Parce que vous le savez aussi bien que moi, on ne va pas rentrer dans les détails, mais certains chercheurs, ils sont peut-être marginaux, mais enfin, ils existent, il faut prendre en compte leur thèse, pensent que Lévi-Strauss, c'est bon pour, on dira globalement, les Amériques. Quand on arrive en Afrique, Afrique, par exemple, quand on veut analyser les rituels de royauté africains, notamment qui ont été analysés, scrutés par Scoubla, eh ben, ça ne marche plus.
Je ne pense pas que ce soit Scoubla qui ait vraiment fait des recherches là-dessus, mais
c'est
peu importe.
C'est notamment Luc Deuch.
Luc Deuch, oui, Luc Deuch, mais peu importe. À mon avis, enfin, je ne suis pas assez spécialiste, mais peut-être Philippe Descola pourra me compléter là-dessus. Je crois que si on compare les deux ensembles, les deux Amériques et puis le continent africain, surtout subsaharienne, il est clair que là, il faut être peut-être un peu marxiste au sens de tenir compte des infrastructures. C'est-à-dire que dans le cas des deux Amériques, on a des cultures qui sont essentiellement de chasseurs-cueilleurs, sauf évidemment les grands royaumes de Mésoamérique et des Andes. Mais dans le cas de l'Afrique, on est dans une situation où l'agriculture a été beaucoup plus développée, la domestication des animaux également, et donc on est dans des systèmes politiques peut-être plus centralisés, plus organisés. Du point de vue des institutions politiques que nous connaissons, en tout cas, que dans les deux Amériques où dominent les chasseurs-cueilleurs. Alors je ne sais pas si Philippe Descola est d'accord là-dessus.
Je pense qu'on peut dire quelque chose de rapide et de simple. C'est que ce qui fascine Lévi-Strauss dans les populations amérindiennes, tant d'Amérique du Nord que des basses terres de l'Amérique du Sud, c'est le fait qu'elles présentent peu de prise à l'analyse institutionnelle. Ce sont des sociétés simples, dirions-nous, qui sont surtout notables pour leur parure, pour certains rites, etc. Alors que lorsque l'on va en Afrique, lorsqu'on va aussi en Asie, ou en Asie du Sud-Est en particulier, on a des dispositifs institutionnels extrêmement complexes et véritablement l'attention est détournée par la complexité sociale que l'on peut décrire et analyser, au dépend en quelque sorte du caractère sous-jacent que l'on peut faire émerger, et c'est véritablement ce que souhaite faire Lévi-Strauss dans les sociétés amérindiennes.
Patrice Saint-Niglier, vous vouliez rajouter quelque chose, mais moi j'ai une question assez simple. Est-ce que Claude Lévi-Strauss s'est trompé?
Et ça a dû lui arriver, je suppose, oui. D'ailleurs, il l'a lui-même remarqué. Par exemple, il s'est trompé sur un point qui est très intéressant et très important, qui est celui de la séparation de la culture et de la nature, puisque, en fait, son premier grand livre, Les structures élémentaires de la parenté, supposait, en fait, que la culture, c'est quelque chose qui s'imposait à la nature, en quelque sorte, du dehors. Et, en fait, vous nous avez fait écouter deux textes très beaux. Le premier texte, justement, était une critique de l'humanisme, donc de l'exception humaine, du caractère singulier de l'être humain dans la nature. Et donc, ça veut dire que, quelque part, nous autres, les hommes, nous sommes une expression d'une puissance qui est déjà naturel. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre la culture et la nature. Puis une deuxième remarque que je voudrais faire, qui est que qui est très 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 complexe, enfin qui est très très simple et en même temps très 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 subtil, qui est la suivante. Lévi-Strauss se plaint du fait que le monde devient de plus en plus plein. Ça l'inquiète. Mais il faut bien voir que ce monde de plus en plus plein, ou globalisé par la même occasion, est la condition même de l'anthropologie. C'est-à-dire que la connaissance anthropologique, c'est une connaissance de loin, il le dit. C'est un changement d'échelle. Vous voyez les choses de très très loin. Quel genre de connaissance on peut produire sur nous-mêmes quand on nous regarde en nous comparant justement à des continents, à l'Afrique, à l'Amérique, des choses gigantesques, quoi. Bon, on peut produire une connaissance, on peut se situer par rapport à des continents tout entiers. Mais si on peut faire ça, c'est parce que le monde a été globalisé, c'est parce que la colonisation a eu lieu, c'est parce qu'il y a un processus de modernisation. Donc ça veut dire que ce qui rend possible l'anthropologie détruit son objet, c'est-à-dire l'homme.
Mais est-ce qu'il se trompe quand il dit ceci?
Ce pessimisme me paraît être, après tout, offrir à l'optimisme sa meilleure chance, parce que c'est à la condition d'être très pessimiste que nous prendrons conscience des dangers qui nous menacent, c'est à la condition d'être très pessimiste que nous aurons le courage d'adopter les solutions nécessaires et que donc, peut-être, nous pourrons recommencer à avoir une certaine dose d'optimisme, disons, modéré.
Le mot optimisme est assez rare quand même dans la bouche de Claude Lévi-Strauss. Est-ce que j'ai l'impression qu'il est vraiment, je ne dirais pas passéiste, je n'oserais pas, je ne suis pas qualifié pour, mais quand même qu'il est tout à fait hermétique à la mondialisation, à la globalisation, que finalement le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre en lisant Claude Lévi-Strauss. Mais je vais me faire taper les doigts là par les professeurs que vous êtes.
Non, mais simplement, par exemple, il y a un texte de Lévi-Strauss sur New York. Donc, comme on l'a dit, Lévi-Strauss a vécu à New York. Il était fasciné par la culture américaine. Et ce qui décrit New York, c'est quoi? C'est justement ce qu'il y a dans la ville et qui ressemble à sa vision même du monde tout entier, de la culture, c'est l'hétéroclite. C'est la rencontre, en fait, de choses très hétérogènes les unes à côté des autres. Et au fond, la pensée pour Lévi-Strauss, c'est une manière de mettre de l'ordre dans quelque chose qui est complètement hétéroclite, en fait. C'est-à-dire que la nature qui se présente à nous est faite de grande diversité de toutes sortes de choses. Et penser, c'est introduire là-dedans un ordre qui peut peut-être paraître artificiel, mais qui en réalité est une expression d'une des possibilités du monde lui-même.
Benoît Ruel.
Alors, je vais poser la question à Philippe Descola, mais peut-être que quelqu'un d'autre va me répondre. Comment penser aujourd'hui le relativisme, enfin le relativisme, on a accrédité, on a dit qu'il était relativisme. Finalement, il ne semble pas être relativisme, car le relativisme de Lévi-Strauss n'accrédite pas l'idée d'une irréductibilité des cultures les unes aux autres. Qu'en dire aujourd'hui ?
Il y a une confusion générale, je crois, concernant le relativisme, entre le relativisme comme méthode et le relativisme comme attitude morale. Le relativisme comme méthode, il est constitutif de la démarche anthropologique parce qu'il suppose que les institutions au sein desquelles l'observateur a été élevé ne doivent pas constituer la norme ou le gabarit à partir duquel juger, analyser, évaluer les institutions et les valeurs des autres. Si on n'adopte pas ce point de vue, bien évidemment, on ne peut que propager l'ethnocentrisme ou l'eurocentrisme. Et puis il y a le relativisme moral qui dit tout se vaut, tout est équivalent. Et ça, c'est un point de vue qui n'est pas dérivé du relativisme méthodologique et qui n'est certainement pas celui de Lévi-Strauss.
De ce point de vue-là, il y a un texte très important, c'est Race et Histoire, 1952. Hein.
Bien sûr, il y a Race et Histoire qui, à l'époque de la constitution de l'UNESCO et de la volonté d'un groupe d'intellectuels universalistes, d'ailleurs, après la guerre, de forger une sorte de doctrine mondiale qui rendrait impossible que se reproduisent les catastrophes issues du racisme et du mépris de l'autre qui avait endeuillé l'Europe. Cette attitude de Lévi-Strauss l'a partagée et il l'a poursuivi. Et puis il y a eu le deuxième texte qui a fait couler beaucoup d'encre aussi, qui est Race et Culture, où précisément là il s'inquiète de l'uniformisation progressive et aussi peut-être de la fixation patrimoniale des cultures, chacune renfermée dans son petit univers. Donc il est très attentif à ces choses-là, il l'a toujours été, et il a joué un rôle public, je pense, en particulier à l'UNESCO, pour dissiper les préjugés.
Au fond, il pense que pour que l'altérité ait vraiment un sens, il faut garder les différences.
Bien sûr, et je pense que c'est vraiment une question de principe. Hein. Un monde divers, tant un monde culturel qu'un monde naturel, pour reprendre cette distinction, est un monde qui est plus intéressant à vivre qu'un monde monotone et uniforme.
La nature est très importante parce qu'on peut en faire un des précurseurs de l'écologie, pratiquement, non ? Patrice Beniglier.
C'est vrai que Lévi-Strauss est un penseur, se veut un penseur écologiste, mais je veux dire, pour revenir aussi à la question, s'est-il trompé ? Ou est-il traditionnaliste, etc. C'est vrai que peut-être Lévi-Strauss n'a pas porté suffisamment d'attention à la création des variétés internes. C'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés où, au fond, on peut parler d'uniformisation, mais en réalité, il y a quand même une très grande diversité. Hein. Quand on voit notamment dans la parenté l'invention de formes, de familles nouvelles, etc., ça, c'est aussi la diversité humaine. C'est-à-dire que l'avenir est encore quelque chose qui relève de la création, de variations, de différences. Et ça, c'est aussi notre actualité. La question, c'est de savoir est-ce que l'anthropologie de Lévi-Strauss nous aide à penser ça ou pas. Je crois que oui.
Donc Claude Lévi-Strauss, un penseur de l'avenir, selon vous. Merci à tous, Marcel Hénaff, Pierre Maniglier, Philippe Descola. Les références bibliographiques de vos livres sont sur le site de RFI, rfi.fr, mais on peut en citer quelques-uns. Philippe Descola, Par-delà, Nature et Culture chez Gallimard et Les Lances du Crépuscule chez Terre Humaine. Marcel Hénaff, Claude Lévi-Strauss, Le Passeur de Sens, et Patrice Maniglier, La vie énigmatique des signes chez Léo Cher. Sinon, je tiens à signaler la sortie, entre autres, de deux DVD qui nous ont servi pour la préparation de cette émission, Le siècle de Claude Lévi-Strauss aux éditions Montparnasse et Lévi-Strauss, tout simplement, chez Arte Vidéo. À signaler aussi et surtout le volume de la Pléiade qui regroupe 7 textes de l'anthropologue de Triste Tropique à regarder, écouter, lire. C'est l'indispensable de cette journée anniversaire. Émission spécial depuis le musée du Quai Branly, préparé par Benoît Ruel avec Florence Pons, réalisation Nicolas Spiga, Marc Fichet à la technique. Culture Vive reprend son cours normal lundi, même heure, même fréquence. Bon week-end.